Mais enfin, Sofiane, c'est quoi ce masque?
Bah oui, il est joli, mais il n'est pas à toi. Je ne t'ai pas dit que tu l'avais volé, je te demande d'où il vient. Mais enfin, ça ne s'échange pas un masque, c'est dégoûtant.
Qu'est-ce que tu lui as donné en échange? Deux masques en papier propre ou quatre sales?
Mais c'est pas vrai!
Où les prends-tu, les sales?
Par terre! Tu te rends compte de ce que tu dis? Ah non, ça c'est nul comme blague, Sofiane. Franchement, c'est nul, hein, surtout en ce moment. Alors d'où ils viennent ces masques que tu échanges?
Des poches de papa, il a des masques pleins ses poches.
Ah bah tu me rassures, ça doit être des propres.
Non, ce sont des sales. Bah t'es bien péremptoire, c'est pas écrit dessus.
Ils sentent le tabac. Ah le cochon, il refume! Sofiane, tu vas me rendre ces masques à son propriétaire.
Non, pas tout de suite, quand on les aura lavés.
Et puis terminer les échanges, hein, nous sommes bien d'accord. C'est terminer aussi les fouilles de ton père. Hein. Ça c'est très grave. Hein. Fouiller les poches, c'est très grave. Tu me fatigues, Sofiane. Moi, c'est pas pareil. C'est mon métier. C'est pour avoir des trucs à raconter.
Je m'appelle Léo. J'ai 6 ans. Je voulais vous demander, est-ce que les microbes, ça peut s'écraser? Au revoir, madame. Merci.
Je suis Basile. J'ai 4 ans et demi. Et je me demande pourquoi, et ben... est-ce que les voitures écrasent les microbes? Merci.
Alors, Léo et Basile, Maxime Schwartz, vous posez des questions un peu extravagantes.
Bien, Léo et Basile, je dois dire que j'ai trouvé vos questions très amusantes parce que je ne me les étais jamais posées. Cela dit, bien, la réponse est claire, c'est non. On peut pas écraser des microbes avec son pouce, par exemple, et les voitures n'écrasent pas les microbes. Et en fait, il y a deux raisons pour lesquelles on n'écrase pas les microbes. La première raison, c'est que les pneus d'une voiture, ou bien nos doigts, ne sont pas des surfaces toutes plates. À l'échelle d'un microbe qui est tout petit, eh bien ces surfaces sont en fait couvertes d'une multitude de trous et de bosses, ça n'est pas plat du tout. De telle sorte que la plupart des microbes, qui sont minuscules, se trouveront sous un trou et ne sentiront même pas le passage de la voiture ou la pression du pouce. Et pour le comprendre, il suffit d'imaginer qu'on veuille écraser des fourmis avec une tôle ondulée. D'accord. Vous voyez bien que la plupart des fourmis, elles vont pas être écrasées. Yes. Et ça sera vrai même si les pneus de la voiture sont très lisses. En fait, pour une bactérie, même une plaque de verre, qui a l'air vraiment tout à fait lisse,
ben oui.
Eh bien, elle est pleine de trous et de bosses. Parce qu'elles sont toutes petites et elles voient tous les trous et les bosses. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on peut pas écraser les microbes. Mais il y en a une autre. C'est que les microbes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont très solides. Si on veut écraser des bactéries, parce que quelquefois on a besoin de faire ça au laboratoire, pour aller voir ce qu'il y a dans les bactéries, eh bien on peut le faire, mais à ce moment-là, il faut utiliser une presse, un peu comme celle, si vous voulez, qui permet d'écraser des raisins, mais qui crée de très hautes pressions. On dit que c'est de l'ordre, disons, de 1000 kg par centimètre carré. Ça veut dire qu'il faut appuyer 1000 kg sur un centimètre carré pour arriver à casser ces bactéries. Et alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne se contente pas de les écraser, mais on pousse très très fort et en même temps, on les fait sortir par un tout petit trou et alors elles sortent complètement écrasées dans le petit trou. Eh bien, si on reprend la question, prenant justement une voiture, bah, ça fait à peu près 1000 kg. Eh bien, si on voulait écraser les bactéries avec son pouce, il faudrait appuyer avec une pression comme si on avait toute une voiture. Et ça, bah, il faudrait vraiment être très fort pour pouvoir exercer une pression de cet ordre-là. Et puis, bah, pour ce qui est de la voiture elle-même, alors la voiture, vous me direz, elle pèse justement les 1000 kilos, mais elle n'est pas seulement sur un centimètre carré. Elle est répartie sur 4 pneus, et les pneus, il y a une surface encore de plusieurs centimètres carrés. Donc en chaque point, eh bien, la pression, elle est de l'ordre de 100 fois plus faible. Elle est tout à fait insuffisante pour pouvoir écraser les microbes.
Maxime Schwartz est biologiste moléculaire. Il a été directeur de recherche au CNRS, directeur général de l'Institut Pasteur. Il est correspondant de l'Académie des sciences. Et en 2008, il a écrit chez Odile Jacob « Des microbes ou des hommes, qui va l'emporter ?» La guerre des microbes ne finira jamais, disait-il, dans les années 1960, avec la généralisation des antibiotiques et de la vaccination. On croyait la guerre des microbes gagnée. Mais de nouvelles maladies microbiennes résistantes aux antibiotiques apparaissent. C'était en 2008, un petit peu prémonitoire. Vous écoutez Les Petits Bateaux, une émission où des enfants posent des questions et où des spécialistes répondent. Toutes les questions sont bien accueillies au Petit Bateau.
Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 12 ans et je voudrais savoir s'il y a des profs qui n'ont pas de chouchou. Voilà, bah, merci, au revoir.
Bonsoir Lucie. Alors nous avons évidemment proposé ta question à un prof. Mara Goyer, vous êtes professeure dans un collège et vous avez écrit Collège Brutal et c'est édité chez Flammarion. Existe-t-il des profs qui n'ont pas de chouchous? Demande Lucie.
Non Lucie, je vais te décevoir. Je crois que tous les professeurs ont des chouchous. Je dois t'avouer cette sinistre vérité. Mais attention, ne sois pas désespérée à part si tu es chouchoute pour autant.
Vous avez un fond d'honnêteté quand même.
Ben, on est obligé de le dire, je crois que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a des chouchous, c'est-à-dire qu'on a en face de nous un groupe et il y a des élèves qui nous attirent l'œil, il y a des élèves qui nous semblent drôles, il y a des élèves pour lesquels on a de la tendresse, mais on n'en reste pas là. C'est-à-dire que évidemment, on culpabilise, on se dit ce n'est pas bien d'avoir des chouchous, un professeur doit absolument traiter ses élèves de la même façon. Du coup, pour compenser, on va s'intéresser à ceux qui ne sont pas spontanément nos chouchous. Et là, on découvre plein d'autres individus formidables et ils deviennent après notre chouchou. Il y a une sorte de roulement du chouchou dans la classe. Et puis certains, vraiment, on n'y arrive pas, quoi. Ils sont antipathiques ou ils sont lents ou ils font tomber trois fois leur trousse. Et puis au bout d'un moment, eux, c'est pas nos chouchous, mais on les trouve touchants. Et il en reste encore quelques-uns, vraiment, qui sont très, 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 très désagréables. Et là, on est triste de ne pas arriver à les transformer en chouchous. Du coup, on part à leur conquête et ensuite, bon, au moins, on parvient à les apprécier.
Si je comprends bien, ce n'est pas parce qu'on a un chouchou qu'on va forcément le favoriser.
Ah non, 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 on le favorise pas. Et au contraire, on essaie de d'éteindre ce sentiment en nous qui nous semble être une entorse grave à la déontologie. Et du coup, on se dit non, je suis un mauvais professeur si j'ai un chouchou. Du coup, parfois même, on est très dur avec nos chouchous.
Ça me fait penser, est-ce que vous racontez, à tous les récits d'écrivains qui ont été élèves dans la classe de leur père ou de leur mère et qui étaient en général très durement traités.
Exactement. Oui, c'est ceux qui étaient le plus durement traités, évidemment, parce qu'il fallait donner l'exemple du non-favoritisme. Donc, avoir des chouchous, ça ne veut pas dire qu'il y ait du favoritisme.
Depuis qu'elle est venue au Petit Bateau, Mara Goyer a écrit plusieurs ouvrages, dont Jules Ferry et l'enfant sauvage, édité chez Flammarion.
Oh yeah. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah. L'autre jour j'écoute la radio en me réveillant, c'était Yvette Turner qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Oh yeah. Mon meilleur ami, si vous le connaissiez, vous ne pourriez plus vous en séparer. L'autre jour, il n'était pas très malin, il a pris un laxatif au lieu de prendre le train. Oh yeah. Oh yeah. Avec mon petit cousin qui a 10 ans, on regardait Gros Nounours à la télévision. À Nounours il a dit bonne nuit mon bonhomme, il est parti danser le Jerko Palladium. Oh yeah. Le juge a dit à Jules vous avez tué. Oui j'ai tué ma femme pourtant je l'aimais. Le juge a dit à Jules, vous aurez 20 ans. Jules a dit, quand on aime, on a toujours 20 ans. Oh yeah. Tout devrait changer tout le temps. Le monde serait bien plus amusant. On verrait des avions dans les couloirs du métro et Johnny Hallyday en cage à Medrano. Oh yeah. Oh yeah. Si je je porte des chemises à fleurs, c'est que je suis en avance de deux ou trois longueurs. Ce n'est qu'une question de saison, les vôtres n'ont encore que des boutons. Oh yeah! J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant « Antoine, vous avez du bon sens ?» Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente dans les monoprix. Oh yeah!
Et voilà, c'était toute une époque, Antoine, les élucubrations. C'était en 1966. Alors, il y a des choses qui ont vieilli, puis d'autres pas. Les chemises qui ont des boutons, moi, ça m'amuse. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il a chanté « Il faudrait mettre Johnny en cage au cirque Medrano », Johnny Hallyday, évidemment. Et Johnny a répondu la même année en chantant « Cheveux longs et idées courtes ». Eh bien, c'était un tacle pour Antoine.
Les petits bateaux sur France Inter.
On ne connaît pas grand-chose sur les insectes, peut-être parce qu'ils sont petits.
Bonsoir, je m'appelle Gabriel, j'ai 8 ans, je voudrais savoir si les insectes font pipi.
Est-ce que les insectes font pipi? Vincent Albouy, entomologiste, auteur naturaliste, entre autres, de cette histoire remarquable des insectes, édité chez Delachaux et Niestlé.
Oui Gabriel, les insectes font pipi. Alors, ils font aussi caca d'ailleurs, mais tous ne font pas forcément pipi et caca. Il faut savoir que chez eux, c'est pas comme chez nous, il n'y a pas une sortie pour le pipi, une sortie pour le caca, tout est mélangé. Et selon ce qu'ils mangent, ça va sortir liquide, on va dire qu'ils font pipi, ou alors ça va sortir solide, on va dire qu'ils font caca. Alors, parmi les insectes qui font pipi, ce sont essentiellement ceux qui vont sucer la sève des plantes, donc ils vont absorber beaucoup de liquide, par exemple les pucerons, par exemple les cigales. Les cigales font pipi en envoyant un jet sur le côté.
Oui.
Alors que les pucerons font pipi par le bout de l'abdomen et ça sort comme une grosse boule. Et comme leur pipi est très sucré, vous avez des amateurs de pipi de pucerons, notamment les fourmis qui viennent le boire parce qu'elles aiment bien les jus sucrés. Et quand ce pipi est abondant, il va recouvrir les feuilles. Et à ce moment-là, il y a des fois les abeilles domestiques, les abeilles des ruches qui vont venir le récolter pour en faire du miel. Alors quand on sait que les abeilles avalent le nectar des fleurs ou le pipi des pucerons qu'on appelle le miella des pucerons, ça fait plus chic, mais c'est du pipi de puceron.
Ah, le miella, c'est donc du pipi de puceron.
C'est du pipi de puceron, donc quand elle avale le miella ou le nectar, en fait quand elle le récolte, elle l'avale, elle commence à le digérer et après elle le régurgite. Donc en fait le miel de miella, qui est un des miels qui vaut le plus cher parce qu'il a beaucoup d'amateurs, le miel des Vosges par exemple, c'est du miel de miella de sapin des Vosges et d'autres arbres résineux. Donc ce miel de miella, c'est en fait du pipi de puceron vomi par les abeilles. Voilà.
Et c'est le miel le plus cher. Et c'est le miel le plus cher parce qu'il est le meilleur au goût, à votre avis, c'est un petit peu subjectif, Vincent Albouy.
Oui, c'est une question de goût, et puis c'est aussi une question de rareté, parce qu'il y a beaucoup plus de fleurs que de miel de nectar dans les fleurs que de miel de pucerons. Il n'y a pas du miel à chaque année en quantité importante, donc c'est un produit qui est difficile à obtenir en petite quantité, et donc ce qui est rare est cher, donc le miel de miella, comme il est bon et qu'il est rare, il est cher.
Pline, le naturaliste, pensait que le miel de miella, tombait des étoiles. Alors à propos d'étoiles, retrouvons pour un petit moment notre André Braille qui n'est plus de ce monde, mais c'était un astrophysicien brillant et sympathique.
Je m'appelle Amélie, j'ai 7 ans, je voudrais savoir pourquoi Saturne a des anneaux. Merci, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 7 ans et je voudrais savoir pourquoi la planète Saturne a des anneaux et pas les autres planètes. Merci de me répondre. Au revoir.
Merci de cette question, Amélie Arthur. Mais Arthur est un peu vexant pour moi, puisque j'ai eu le bonheur, il y a quelques années, c'était en 1984, de découvrir des anneaux autour de Neptune. Et en fait, toutes les planètes géantes ont des anneaux. Il y a des anneaux autour de Jupiter, découverts en 1979. Il y a des anneaux autour d'Uranus, découverts en 1977. Et des anneaux de Neptune, donc j'ai la chance de découvrir en 1984. Ceux de Saturne, eux, ont été découverts en 1610 par Galilée. Ils sont plus brillants que les autres, mais je dirais que le fait qu'il y ait des anneaux est un phénomène naturel. Pourquoi?
Ils sont en quoi, ces anneaux?
Oh, ils sont faits de particules avec de la glace, des silicates, des carbonates, plein de particules qui se cognent, de cailloux, disons, c'est des cailloux qui se cognent. Et des, c'est un mélange de cailloux de toute taille. Il y en a qui font quelques microns, quelques millimètres, appelons ça des poussières. Il y en a qui font quelques centimètres, appelons ça un petit caillou. Il y en a qui font des mètres, appelons ça un rocher. Il y en a qui font des kilomètres, appelons ça un petit satellite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mettez un corps près d'une planète, il y a ce qu'on appelle un effet de marée. C'est-à-dire la partie du corps qui, à un instant donné, est la plus proche de la planète est plus attirée que la partie qui est plus éloignée. Donc, il y a une tentative de déchirement de la planète. Donc, si vous êtes trop près, la force de déchirement est considérable et le corps est cassé en petits morceaux. Étant cassé en petits morceaux, ces petits morceaux se cognent les uns contre les autres et ce qui était a priori un nuage de cailloux autour de la planète devient un disque plat dans le plan de l'équateur. Pourquoi ? Parce que ça cogne beaucoup plus fort dans la direction, je dirais, de l'axe de rotation que dans la direction perpendiculaire. Donc, plus on cogne fort, plus on perd d'énergie et plus on se rapproche en quelque sorte du centre de gravité du système. Bon, donc, la conjonction des effets de marée, d'une part, qui casse tout corps trop proche en petits morceaux, et d'autre part, des collisions entre les corps qui forment un anneau, fait que auprès de toute planète, il doit y avoir des anneaux. Donc il y en a auprès des planètes géantes, dans le système solaire, et je suis persuadé que les autres planètes géantes qu'on est en train de découvrir autour de ces étoiles ont-elles aussi des anneaux. Mais alors immédiatement, la question qui vient, c'est pourquoi il n'y en a pas autour de la Terre?
Ben oui.
Et bien, c'est naturel là aussi, parce que la Terre, je dirais, est un débris. C'est-à-dire que la matière de l'univers est faite pour l'essentiel d'hydrogène et d'hélium, ça compose 99% de la matière de l'univers, mais près du Soleil, il fait très chaud, ces éléments très légers sont partis, et on a formé la Terre qui restait, c'est-à-dire le 1% qui restait. Et bien, dans le monde de Jupiter, de Saturne, il y a beaucoup de monde, ça cogne complètement, ça donne des anneaux. Dans le monde de la Terre, il n'y a pas assez de matériaux. Mais si demain je devenais extrêmement riche, tellement riche que je lancerais des milliers, des milliards de satellites autour de la Terre, ces objets se cogneraient mutuellement et formeraient un très bel anneau autour de la Terre. Mais je ne le souhaite pas, parce que s'il y avait un anneau autour de la Terre, nous aurions sans arrêt clair d'anneau. Ça ne serait pas clair de lune à Maubeuge, mais ça serait clair d'anneau dans la nuit de la Terre. Ce clair d'anneau serait peut-être très beau pour les poètes et les romantiques, mais nous ne verrions plus les étoiles.
Donc pour découvrir des anneaux, André Braïk, c'est pas le hasard qui fait que on trouve un anneau comme on trouve un trésor, c'est une supposition que vous vérifiez par des calculs, vous vous dites il doit y avoir ça, que ça doit se passer comme ça, donc vous le savez et après vous le voyez.
C'est exactement comme quand vous partez en forêt pour voir des animaux, vous asseyez puis vous regardez s'il y a un lion qui passe, un oiseau, un chevreuil ou que sais-je qui passe, et c'est pareil.
Mais je ne vais pas là par hasard.
Et qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien on regarde le moment privilégié dans le cas de Neptune, où la planète Neptune passait devant une étoile. Alors quand la planète Neptune passe devant une étoile, elle éteint la lumière de l'étoile. Mais s'il y a des anneaux autour, eh ben les anneaux qui sont devant ou derrière vont éteindre la lumière brièvement. Et donc c'est ainsi qu'on a détecté la présence de quelque chose autour de Neptune. Ce quelque chose, c'était des anneaux. Et grâce à cette découverte en 84, j'ai pu faire modifier le programme de la sonde Voyager qui était en route vers Neptune. Et en 1989, nous avons photographié les anneaux de Neptune qui sont en fait des arcs de matière. Étant le découvreur, j'ai eu le privilège de les baptiser et je les ai baptisés Liberté, Égalité, Fraternité.
Trop joli, que nous avons eu de la chance au petit bateau d'avoir la visite régulière d'André Braïk. Il était vraiment généreux, lui, qui avait peu de temps. Allez, pour se réjouir, puisque les musées sont fermés à la visite, je vous propose un musée de l'architecture à ciel ouvert dans Paris. La Maison de la Radio et de la Musique, par exemple, 116 avenue du Président Kennedy, ne vous approchez pas trop, elle est en travaux, mais d'un peu loin, de l'autre côté de la Seine, par exemple, elle a de la gueule. Et puisque vous serez dans le coin, l'immeuble Hector Guimard, rue La Fontaine, l'immeuble Auguste Perret, rue Raynouard, un chouïa plus au nord, la Maison Malestévins, un chouïa plus au sud, le musée Jacques Chirac, dit musée du Quai Branly. On dit que les Français ne sont bons ni en anglais ni en géographie, ce qui est fâcheux. J'ai envie de rajouter ni en architecture. Ce qui peut paraître moins fâcheux, sauf quand on se promène dans nos villes et villages et qu'on se dit parfois « Comment a-t-on pu construire ça ?» Et parfois avec des gros moyens. Ignorance. Nous ne sommes pas bons en architecture. On ne nous apprend pas d'architecture à l'école. Les éditions Erol proposent une chronologie de l'architecture de John Zukowski, des cercles de pierre au gratte-ciel. Dans ce livre, photos, explications, repères historiques nous montrent qui a construit quoi, quand, où et pourquoi. On ne peut pas tout aimer en architecture, mais on peut comprendre, ça aide.
Been saying you're sophisticated, they're complaining.
Super joli, élu à l'unanimité de la régie et du studio des Petits Bateaux ce soir, les Strokes, extrait de la playlist de France Inter.
Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 13 ans. J'aimerais savoir si c'est vrai que quand on répare un tableau célèbre, la réparation doit toujours rester un peu visible. Merci, au revoir.
Bonsoir Vincent. Alors quand on répare un tableau célèbre, la réparation doit toujours rester un peu visible. Vincent demande si c'est vrai cette théorie. Annette Douai, vous connaissez bien la réparation des tableaux puisque vous êtes restauratrice de tableaux, vous êtes aussi experte en authenticité des matériaux de la peinture et puis vous êtes enseignante.
Alors là on va rentrer dans ce qu'on appellera la déontologie. Et dans la déontologie qui est une étape moderne, la plus récente de la conservation des œuvres d'art, on va plus parler de réparation déjà, on va parler de restauration. Ah. Le restaurateur étant un professionnel à part entière. Autrefois, effectivement, on parlait de réparation. Aujourd'hui, c'est un peu désuet et ça sous-entend que ça peut être fait, on va dire, par quelqu'un qui fera ce qu'il pourra, mais qui sera pas professionnel. Et ça, il faut s'en méfier parce que sous le couvert de vouloir bien faire, ils font souvent de très mauvaises choses qui peuvent être dangereuses pour la peinture et entraîner des dégâts irréversibles. Alors la notion de réversibilité, justement, elle est très très importante dans notre métier. On doit respecter cette notion, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir enlever à n'importe quel moment le travail qui aura été fait. On parle de réversibilité, donc si. Que ce soit dans les techniques ou dans les matériaux qu'on va apporter. C'est quelque chose de très important. Alors là, la question de Vincent, elle est intéressante, mais ça concerne pas que les tableaux célèbres. Ça concerne tous les tableaux. Parce qu'aujourd'hui, tous les tableaux doivent être traités par un professionnel et le professionnel va répondre à différents critères déontologiques, ouais, dont la réversibilité. Quand Vincent demande si la réparation doit toujours rester un peu visible, en fait, le restaurateur, lui, va toujours voir son travail. Mais le but, c'est que le public, le spectateur, ne voit pas le travail. Par contre, ce travail doit pouvoir être vu sous différentes lumières. C'est-à-dire que quand on va regarder un tableau exposé dans un musée ou accroché sur un mur, il est exposé ce qu'on appelle en lumière blanche, qu'elle soit naturelle ou artificielle, et bien sûr, une bonne restauration ne se verra pas. Par contre, quand on va prendre une petite lampe, ce qu'on appelle des ultraviolets, et qu'on va se mettre dans le noir, on va regarder ce tableau sous les ultraviolets, et là, vont apparaître sous forme de taches, plutôt foncées, dans les bleus, bleu-violet, les zones qui ont été retouchées. Et ça, c'est très important pour pouvoir faire la distinction entre ce qui est original et ce qui a été restauré. Et le but d'une bonne restauration, c'est qu'elle soit non seulement le plus invisible possible en lumière blanche, mais surtout qu'elle soit le plus limitée possible.
Vous en mettez le moins possible.
On en met le moins possible et surtout le plus strictement limité à l'accident. Alors qu'autrefois, c'était des peintres et le peintre, s'il ne trouvait pas le bon bleu, il en mettait un autre et puis il repeignait tout le ciel. Mais il y a aussi différentes techniques de retouche, parce que là on parle de la retouche. La retouche, c'est la partie de la restauration, la partie finale. Quand il y a eu une lacune, quand il y a eu un accident, on traite d'abord le support, ensuite on le comble, et après on retouche, c'est-à-dire qu'on va mettre une couleur. Mais par exemple, on ne travaille pas à la peinture à l'huile, on travaille avec des peintures au vernis qui sont spécifiques pour la restauration des tableaux. Mais dans cette technique de retouche, on a différentes techniques justement qui ont été mises au point à partir des années 60-70 par des penseurs qui ont essayé de distinguer à ce que la restauration soit volontairement visible. Mais elle soit pas choquante ni gênante. C'est-à-dire que quand on prend un mètre de recul, on voit pas la restauration. Mais si on la regarde de près avec des yeux tout à fait normaux, on n'a pas besoin de microscope, on va pouvoir voir la restauration et on appellera ça une retouche à trattaggio.
À trattaggio.
Trattaggio, c'est-à-dire c'est une technique qui est créée en Italie, qui permet de restituer une couleur par la juxtaposition de petits traits de couleurs qui vont se compléter et qui, dans l'œil, vont donner l'illusion de la couleur originale.
Il faut que ça se voit, mais pas trop. J'imagine que parce qu'entre la restauration et le faux, il doit y avoir une frontière qui est assez mince.
Exactement. On a essayé de réellement rendre visible, en fait.
Pour être honnête.
Pour être honnête, c'est exactement ça.
C'est intéressant, hein, cette notion de réparation qui doit être parfaite, donc invisible. Mais quand on y regarde de près, ça se voit. Je vous invite à podcaster ces petits bateaux par franceinter.fr. Petite émission, grande équipe, Arnaud Caillé, Marjorie Devoucoux, Jean-Baptiste Audibert, Eliane Girard, Stéphane Combe et Noël Bréham. Après le flash, vous retrouverez Jérôme Garcin pour un masque et la plume consacré ce soir à la littérature.